Salut à toutes et à tous. Au sommaire de ce troisième Rétrovision de la saison 4, nous aurons les Chevaliers de Baphomet, Robocop, Tron, Shadow of the Beast 3, Sub Hunt, et nous finirons avec la démo Atmosphere du groupe Stoneheart sur Amiga. Bienvenue sur Rétrovision. Très heureux de vous retrouver sur Rétrovision avec une qualité d'image améliorée grâce à l'acquisition de matériel un petit peu plus perfectionné. Et pour narrater cette nouvelle page de la fabuleuse histoire du jeu vidéo, on commence avec un point and click très populaire, Les Chevaliers de Baphomet, sorti en 1996 sur PC. George Stobart, touriste américain qui passe ses vacances à Paris, est installé à la terrasse d'un café et profite du beau temps tout en observant les gens alentour de façon distraite. C'est alors que surgit un clown, comme il dit avec son accent, avec ses ballons de couleur, son accordéon et un sourire étrangement machiavélique. En une fraction de seconde, il profite de l'inattention d'un client d'allure distinguée pour lui dérober sa mallette tout en déposant son accordéon piégé à la place. George a à peine le temps de voir le clown prendre ses jambes à son cou qu'il s'ensuit une terrible explosion. Par miracle, notre touriste américain s'en sort sonné mais indemne. Devant le manque d'action de la police nationale, il décide de mener sa propre enquête. Votre mission sera de déjouer un complot vieux de plusieurs siècles, perpétué par les descendants des Templiers. Vous devrez parcourir Paris à la recherche d'indices, mais vous ne serez pas seul, une charmante journaliste prénommée Nicole vous prêtera main forte.
Tu crois que c'est notre assassin qui a tué Marquet ?
Je ne pense pas. Il aurait pu l'éliminer la première fois. En plus, Marquet l'aurait reconnu.
Il avait le cerveau farci de Calmont. Il n'aurait même pas reconnu les quatre cavaliers de l'Apocalypse s'il s'était présenté à lui.
Ce jeu, sorti en 1996, est l'un des derniers point and click à l'ancienne. La 2D donne ici un rendu dessin animé du plus bel effet, avec des décors lumineux et colorés. La bande-son est magistrale, tout comme l'animation, digne des meilleurs Disney avant l'avènement de la 3D.
Non.
Comme dans tout bon pointer et cliquer, vous devez faire interagir les objets et les personnes avec les différentes actions qu'on vous propose dans la barre en bas de l'écran. Rien de bien révolutionnaire, on reste dans la tradition de ce type de jeu.
C'est ça, Seigneur Stobart, ça tient.
Rapidement, j'assemblais les pièces et les cases correspondantes.
La particularité de Baphomet est clairement basée sur la réflexion et la déduction, à la manière d'une enquête policière. Pas d'énigmes tordues à résoudre, mais plutôt de nombreux dialogues à écouter avec attention.
Voilà autre chose, je me dis. Faut que je vois ça de plus près.
Les Chevaliers de Baphomet, ou Broken Sword pour le titre original, est un classique incontournable. Une version DS Director's Cut avec des scènes supplémentaires et même sortie il y a peu de temps.
The public trust, protect the innocent, uphold the law. RoboCop.
Mm.
Au cours d'une intervention policière, l'agent Murphy est atteint par plusieurs balles et est considéré comme cliniquement mort. Mais c'est sans compter sur les docteurs Frankenstein de l'agence OCP qui vont récupérer son corps et y greffer des membres robotisés. Murphy devient donc 50% homme, 50% machine, 100% flic. Ses directives sont claires, protéger les innocents, appliquer la loi et aider les petites mamies à traverser la rue. Vous êtes Robocop et vous devez débarrasser la ville de tous ces malfrats. Le jeu s'apparente à un run and gun à scrolling horizontal. Pour défaire les vagues ennemies qui déferlent, vous avez vos petits poings, mais aussi et surtout un pistolet que votre personnage dégaine de l'intérieur de sa cuisse et qui peut tirer différents projectiles en fonction des objets que vous récupérez. Il est possible de tirer à 180 degrés, ce qui est bien pratique contre les vilains situés en hauteur. Classique dans son déroulement avec son lot de boss à la fin de chaque niveau, le tout accompagné par le thème musical du film. Robocop fut adapté sur de nombreuses machines à la même époque et, comme dans la majorité des cas, c'est sur arcade qu'il est le mieux réussi techniquement. A défaut d'être original, le jeu reste agréable, surtout pour les fans du film. Sorti sur Atari 2600 en 1982, Tron Deadly Disc est basé sur le film de Walt Disney où vous contrôlez un homme emprisonné dans un monde informatique vintage. Le principe est d'éviter les disques adverses envoyés par vos ennemis qui arriveront trois à la fois dans chaque salle que vous traverserez. Il est bien important de rester en mouvement pour éviter les attaques tout en essayant de balancer les disques sur vos assaillants. Vous trouverez différentes portes qui vous téléporteront dans une salle différente, vous donnant parfois la chance d'agir en premier. Il y a deux niveaux de difficulté en tout, et au fur et à mesure que le score augmente, le jeu deviendra difficile avec une cadence plus rapide et des ennemis plus coriaces et résistants. Si vous aimez ce genre de jeu, Retrovision vous recommande Disc, édité par Lauriciel en 1990 sur micro-ordinateur et PC. « Troisième et dernier épisode de la saga, voici Shadow of the Beast 3, Out of the Shadow, développé par Reflection et distribué par Psygnosis en 1992 sur Amiga. Chose importante à mentionner dans la série des Beasts, c'est l'évolution du personnage. Après la bête du premier, le néandertalien du deuxième, voilà qu'il retrouve enfin sa forme humaine dans le 3. En plus de cela, il est maintenant possible de choisir parmi les 4 mondes que vous devrez traverser pour y récupérer à chaque fois un artefact magique qui, une fois combiné, sont les seuls capables d'anéantir Maléto. Eh oui, encore lui. Ces 4 quêtes vous proposent une progression certes plus linéaire, mais beaucoup moins fouillie que les autres épisodes de Shadow of the Beast, et la difficulté est revue à la baisse. Il est enfin possible de terminer le jeu sans utiliser un code pour activer Levi Infini. Cependant, méfiez-vous, certaines énigmes sont assez relevées. Je pense notamment au passage des aquariums ou de la fonte des blocs de glace. Cette fois-ci, la maniabilité a été améliorée. Le personnage répond impeccablement aux commandes. Les graphismes sont toujours aussi fidèles à la série, vous plongeant dans cet univers fantastico-gothique. Et que dire des musiques des Anglais Tim Henley Wright qui sont comme à l'accoutumée de toute beauté. La trilogie de Shadow of the Beast ne fait pas l'unanimité chez les rétro gamers. Certains adorent le 2, d'autres ne jurent que par le premier. Mais en ce qui me concerne, j'ai quand même une préférence pour le troisième, qui reprend les points forts de ses deux prédécesseurs, tout en laissant leurs points faibles de côté. N'oublions pas les jeux sur console deuxième génération remplis d'émotions et de souvenirs. Prenons par exemple Subhunt datant de 1981 pour l'Intellivision de Mattel. Vous dirigez un groupe de 4 sous-marins ayant pour mission de détruire 6 convois étrangers qui essaieront de traverser la zone maritime que vous êtes censé garder. Dès que les cuirassés sont entrés en contact, vous passez en mode combat. Il faudra utiliser le périscope tout en ajustant la vitesse et la profondeur pour repérer les ennemis. Une fois dans votre collimateur, vous pouvez tirer des torpilles à une cadence relativement lente, et une à la fois s'il vous plaît. Mention spéciale aux sonorités qui, malgré les faibles capacités de la console, reproduisent plutôt bien l'environnement maritime, à la fois apaisante pendant les phases stratégiques et très stressante durant les combats. Nouvelle sélection Flipper, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas vu, et on débute avec Atlantis, signé Bali en 1989. Cette magnifique table reprend le thème de la fameuse cité engloutie. Avec des règles extrêmement simples, Atlantis convient à tout type de public, aussi bien les débutants que les confirmés. Elle est bien représentative de la fin des années 80. Encore une adaptation cinématographique, il faut dire que c'était monnaie courante pour les flippers, surtout pour des raisons commerciales. L'Evil Weapon, ou l'arme fatale si vous préférez, est une table très technique comprenant des séquences vidéo interactives, comme par exemple le mode combat où vous devez utiliser les flips gauche et droite pour tabasser l'adversaire à l'écran. A noter que le lanceur de boules avait la forme d'un pistolet en plastique. Il fallait appuyer sur sa gâchette en étant synchro avec l'écran matriciel. Voilà un flipper fort sympathique et coloré, Elvira and the Party Monster, réalisé en 1989 par Bally Williams. Si le nom d'Elvira ou Cassandra Peterson ne vous est pas familier, sachez que cette actrice américaine fut l'icône des films d'horreur de série B. Elle présenta une émission de télévision intitulée The Elvira Show durant les années 80 pour ensuite être l'héroïne principale dans le film Elvira, maîtresse des ténèbres. Voici une toute nouvelle rubrique dans Rétrovision. Nous allons vous présenter une sélection de jeux LCD, dont les fameux Game & Watch. Et c'est Snoopy qui inaugure, si je puis dire, cette rubrique LCD, sous la forme d'un tabletop, sorte de borne d'arcade miniaturisée. Le célèbre chien a pour but de marteler les fausses notes émises par le piano de Schroeder, afin de ne pas réveiller la sieste de Lucy, tranquillement installée en bas à droite. Cette adaptation honore fidèlement l'univers de la bande dessinée. Parachute, sorti en 1981, fait partie de la famille des Game & Watch. Vous dirigez un bonhomme tranquillement installé sur une barque, se déplaçant de gauche à droite à l'aide de ses rames. Le rameur devra récupérer le plus de parachutistes possible sans les laisser tomber à la mer et se faire dévorer par les requins. Au bout de 3 erreurs, malheureusement, la partie se termine. Airport Panic fait partie de la gamme des Solar Power de Bandai qui, comme son nom l'indique, fonctionne à l'énergie solaire. L'autre particularité de ces LCD magnifiques est la fonction double panel qui permet d'afficher deux zones de jeu différentes. La première consiste à embarquer 3 fois dans l'avion tout en évitant les bombes, et la deuxième où il faudra tirer sur le bandit en prenant soin d'éviter de toucher les passagers. On arrive tranquillement à la fin de l'émission, en espérant que la sélection vous a plu. On se donne rendez-vous dans quelques semaines, mais avant de se quitter, comme vous le savez, place à la démo Amiga, qui a pour titre Atmosphere, et c'est signé du groupe Stone Arts. Alors à très bientôt sur Rétrovision.